for a friend, someone to call my own. Who's left for me? I've no bound and can't be sold. Give me a friend who's gonna catch me when I fall. Comment garantir l'accès à la santé reproductive et sexuelle aux jeunes? Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge pour une discussion avec une invitée avec nous ici, dans le studio de VOA Afrique, Nicole Tchitam, directrice internationale de la division santé et droits des jeunes, Advocates for Youth, à Washington, ici donc. Merci beaucoup, Nicole, d'être avec nous.
Merci à vous, Nathalie. C'est un grand plaisir d'être ici.
Alors, une discussion qui correspond beaucoup à votre spécialité, en effet, parce que c'est ce que vous faites. Vous occupez de sensibiliser, d'informer la jeunesse, cette jeunesse internationale, en Afrique notamment. Vous travaillez beaucoup en Afrique, à Ouagadougou, entre autres. Informer les jeunes sur leurs droits sexuels. Alors, peut-être que la première question serait celle-ci, en fait. Finalement, permettre l'accès des jeunes donc à la santé sexuelle, et en fait c'est un droit, et c'est sur cette question-là qu'il faut mettre l'accent. Il faut bien préciser que en fait cet accès est un droit.
C'est ça, absolument. Reconnu au niveau global, n'est-ce pas? Les jeunes, ils ont le droit, par exemple, à l'information, à une information complète, correcte, en ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive. Ils ont aussi, par exemple, le droit, n'est-ce pas, à la dignité, le droit à accéder les services. Donc, non pas seulement accéder l'éducation, c'est-à-dire des informations sur la santé reproductive et sexuelle, mais aussi accès aux services. Et même dans le cadre de l'accès aux services, ils ont le droit à des services sont de la confidentialité, par exemple, mm-hmm. Des services dans un espace privé, mm-hmm. Des services qu'on peut accéder sans discrimination. Mm-hmm. Et des services qui offrent un choix libre, mm-hmm. C'est-à-dire à choisir si on veut faire quelque chose, si on va adopter une méthode contraceptive par exemple, on peut dire oui, on peut dire non, et aussi lesquels on peut choisir, mm-hmm. ce sont quelques droits.
Mm-hmm. Alors on va peut-être parler principalement des filles, bien entendu, mm-hmm. parce que le principal souci d'une jeune fille, c'est quoi?
Bon, souvent dans notre travail en Afrique, par exemple, ouais. et dans les pays francophones, c'est souvent tomber en grossesse.
Mm-hmm. Tomber
oui,
enceinte,
ça c'est
ouais.
une grande mm-hmm. inquiétude. Et même chez les garçons aussi, tomber enceinte, disons mm-hmm. que le partenaire tombe enceinte est une grande inquiétude. Mm-hmm. Oui, donc mm-hmm. ça c'est quelque chose qui ça motive, c'est une grande inquiétude parmi les jeunes, et aussi ça se voit même chez les enseignants. Aux écoles, mm-hmm. Chez les prestataires, chez les parents.
Mm-hmm. Donc vous travaillez aussi beaucoup avec les écoles, justement.
C'est ça,
ouais.
c'est uh-huh. ça.
Alors, le cas d'une jeune fille, mm-hmm. Une jeune fille un peu jeune pour être enceinte, mais qui va tomber enceinte, mm-hmm. n'est-ce pas hein mm-hmm. Ce qui arrive, comme on le sait, fréquemment partout dans le monde. Une jeune fille qui tombe enceinte, elle a personne à qui s'adresser vraiment dans son entourage. Elle n'a pas forcément une personne de confiance. Mmh. Et bon, elle veut s'occuper d'elle-même, bien sûr. Elle est inquiète. Elle ne sait pas, en fait, si elle est enceinte, par exemple.
Oui, hein. oui.
Et qu'est-ce qu'elle fait en Afrique?
Bon. Ouais. C'est pas facile. Hein?
Ouais.
Oui, particulièrement si le partenaire n'est pas, partage pas cette responsabilité mm-hmm. ou s'il n'y a pas un adulte de confiance. C'est mm-hmm. pas facile, hein, parce que vraiment, à ce point-là, si on pense qu'on aurait pu tomber enceinte, c'est très important d'accéder aux services mm-hmm. Et d'aller voir et de faire un test pour voir si on est en fait en grossesse. Donc ça, c'est très important. Et bon, souvent dans les communautés quand même, il y a des petites organisations, des organisations à base communautaire, mm-hmm. des femmes ou des jeunes même, qui peuvent offrir de l'assistance. Mm-hmm. Il y a quelquefois, par exemple, des programmes de pères éducateurs, éducatrices, qui sont là pour justement pour donner cet appui-là mm-hmm. aux jeunes filles et pour les mm-hmm. accompagner au service.
Est-ce que, selon votre expérience en Afrique, vous avez le sentiment que les jeunes filles qui sont dans des situations délicates comme ça, elles se confient assez facilement à leur entourage et l'entourage prend en charge ces questions-là ou pas, ou c'est vraiment un sujet tabou ?
Oh, c'est assez un sujet tabou, mm-hmm. c'est ça. C'est pour ça que les jeunes accèdent moins les services que les adultes, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est tellement. En effet, quand on travaille au Burkina et on demande aux jeunes filles quelle est la plus grande barrière pour accéder aux services, elles disent la honte.
Oui.
Oui, donc c'est vraiment une honte profonde qui empêche dire à personne.
C'est bon. Même pas à la maman, quoi.
Oui, bon, ça dépend, bien
oui,
sûr.
Oui,
mais
bien sûr.
C'est une grande mm-hmm, barrière, mm-hmm. oui.
Ce qui nous mène vers le partenariat de Ouagadougou, vous voulez en parler?
Oui, bien sûr, parce que c'est assez intéressant.
Oui.
Le partenariat de Ouagadougou, ça s'est établi lors d'une une réunion régionale sur la planification familiale mm-hmm. qui s'est tenue en 2011 mm-hmm. Avec les gouvernements de 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. Et donc le but, c'était vraiment avec les gouvernements, les bailleurs de fonds, les financiers, les partenaires techniques, d'essayer de coordonner les investissements pour appuyer la planification familiale dans les pays, l'accès à la planification familiale, et aussi pour coordonner les efforts au niveau national et régional. Et c'est parce que, disons, on reconnaît que dans les pays anglophones en Afrique, mm-hmm. il y a quand même beaucoup plus de finances, beaucoup plus d'investissements mm-hmm. Pour les programmes de planification familiale.
Okay. Mm-hmm.
Et pourquoi donc est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça dans les autres pays? Et donc cette réunion, c'était pour vraiment avoir mm-hmm. Les gouvernements, les financiers, mm-hmm. tout ça, vraiment mm-hmm. dire on va investir ici, on va coordonner pour mieux faire pour les femmes et mm-hmm. les jeunes filles.
Mais sachant que au Burkina Faso, la moyenne, c'est à peu près encore 6 enfants par femme ou
c'est
par
ça.
Jeune fille.
Oui.
Ce qui est, en fait, avec les nouvelles générations, comme on le sait, hein, c'est universel aussi, toutes les jeunes filles aujourd'hui ne veulent pas suivre ce chemin-là.
Oui.
Elles veulent un enfant, deux enfants, voire trois, mais elles en veulent pas 6 ou 7,
c'est
10.
Ça. C'est ça. En effet, on appelle ça le besoin non satisfait pour la contraception moderne, mm-hmm. qu'on voit que c'est assez haut. Bon, il y a 222 000 femmes, millions de femmes dans tout le monde qui ont ce besoin non satisfait pour la contraception mm-hmm. moderne.
Mm-hmm.
Et chez les jeunes filles, c'est très haut, ça c'est très fort, n'est-ce pas? Et au Burkina, par exemple, on voit que le taux d'utilisation des méthodes contraceptives est très bas toujours. Pour les filles de 15 à 19 ans, c'est 6%.
Mm-hmm.
Pour les jeunes femmes de 20 à 24, c'est 15%. Et dans les autres pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, c'est plus ou moins la même chose.
Ouais.
Donc c'est toujours très bas.
Ouais.
Et donc oui, cependant, il y a un besoin assez grand de...
Mm-hmm. Toujours le même besoin.
Oui.
Et tout ceci est lié aussi à ce problème de mariage précoce ou d'union précoce, d'union forcée des jeunes filles, hein, même avant 15 ans, n'est-ce pas, comme on le sait. En ce moment, il y a d'ailleurs une grande campagne de Amnesty International mm-hmm. à ce sujet-là. Et l'on constate effectivement que malgré toutes les sensibilisations depuis quelques dizaines d'années, ça n'évolue pas beaucoup. Donc en fait, plus la fille est jeune et plus elle est, on va dire, hein, envoyé dans un couple, n'est-ce pas? Parce que bon, c'est la famille qui lui demande, hein, qui ne lui demande pas d'ailleurs, qui la force à se marier, plus ou moins, n'est-ce pas? Et plus elle est jeune, et plus elle est à même de tomber enceinte jeune. Et le problème après, comme on les connaît, c'est beaucoup de problèmes de santé.
Parole de femme.
La chanteuse béninoise Angélique Kidjo et trois mouvements de jeunes militants africains se sont vus décerner le prix ambassadeur de la conscience 2016. Angélique Kidjo, l'un des auteurs-compositeurs les plus célèbres dans le monde, et les groupes de militants Yanamar du Sénégal, le Ballet Citoyen du Burkina Faso et Lutte pour le Changement, la fameuse Loucha en RDC, partagent donc ce prix. Alors j'ai joint Angélique Kidjo, on l'écoute.
Je suis contente que des jeunes Africains aient reçu ce prix avec moi, parce que l'Afrique n'avancera que si les jeunes Africains commencent à comprendre qu'ils doivent être des artisans de cet avenir-là et de leurs droits. Je suis contente de recevoir ce prix avec l'organisation Lucha de la République démocratique du Congo et des rappeurs du Sénégal. Je suis vraiment contente que Amnesty International comprenne l'importance des artistes dans le changement en Afrique, de mon continent, et la participation des jeunes à ce mouvement-là.
Justement, comment l'expliquez-vous finalement, vous, la grande chanteuse que vous êtes, avec tous ces jeunes? Est-ce que c'est le pont entre deux générations?
Pas seulement, c'est aussi le fait que je me suis engagée dès le départ dans ma musique à défendre les droits des hommes. Mon premier tube, Oui Oui, sur l'album Le Gozo, c'était une chanson dans laquelle je parlais du fait qu'on ne pourrait pas mettre en prison des gens parce qu'ils ont une opinion différente. Moi, j'ai toujours été une avocate des droits de l'homme, parce que sans droits de l'homme, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de société. Si nous perdons la liberté de choix et d'opinion, est-ce qu'on peut parler de démocratie quand il n'y a pas de dialogue avec la population qu'on est censé gouverner?
Est-ce que ce prix, selon vous, va vous permettre de porter encore plus haut la voix des femmes africaines? Et de quelle manière allez-vous vous y prendre finalement pour profiter de ce prix?
Moi, je parlerai toujours des femmes africaines, pris ou pas pris, parce que c'est ces femmes-là qui me permettent de continuer à croire que demain sera meilleur, parce qu'elles ne baissent jamais les bras et qu'elles sont la colonne vertébrale de ce continent qui est le mien, que j'adore, et que partout dans le monde, les femmes, nous portons le monde, nous portons l'humanité, nous donnons vie à l'humanité, et que si on est silencieux, personne ne nous tapera sur les épaules pour nous dire qu'on faisait du bon travail. Et que moi, en tant que femme, je suis pour la parité complète, l'égalité. Et qu'il faut que ça évolue. Ça n'évolue pas assez vite pour moi, d'ailleurs, je dois dire. Mais les choses changent. Mais lentement. C'est vrai que Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais il faut que ça change beaucoup plus vite pour qu'on puisse arriver à avoir des femmes au pouvoir qui peuvent amener une autre façon de gouverner dans le jeu du politique, quoi.
Alors, vous avez toujours dit, il me semble, dites-moi si je me trompe, que la politique, finalement, ne vous intéressait pas beaucoup. Je sens un petit peu dans votre discours que ça pourrait peut-être changer.
Non.
Certaines?
Non, certaines. Je crois à la démocratie, je crois à la liberté d'expression, dans son sens le plus pur, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, cette démocratie, est-ce qu'elle existe réellement? Parce que le processus démocratique que nous avons, elle n'a jamais été remise en question. On n'a pas travaillé dessus parce que, au jour d'aujourd'hui, la majorité ayant toujours la voix au chapitre ne suffit plus. Il y a des minorités qui sont puissantes, qui existent. Comment est-ce qu'on peut arriver à recalibrer notre démocratie d'aujourd'hui pour que toutes les voix se fassent entendre et que tout le monde soit représenté, les minorités comme les majorités?
Un mot sur les mutilations génitales féminines. Un constat un peu alarmant, voire même plutôt alarmant. L'on constate, malgré tous les efforts qui ont été faits ces 10 dernières années, ces dizaines de dernières années, les mutilations génitales féminines, finalement, ça continue de plus belle.
Ça continue de plus belle parce que les gouvernements qui ont signé il y a 3-4 ans aux Nations Unies la résolution de lutter contre les mutilations génitales féminines ne l'ont pas implémenté en loi. Donc, quelque part, il faut qu'on arrive. On ne peut pas baisser les bras parce qu'on a fait beaucoup de progrès. on parle des problèmes, on a fait beaucoup de progrès aussi à des endroits comme le Burkina Faso. Donc il faut apprendre du Burkina Faso, continuer à travailler avec eux pour que les progrès soient beaucoup plus substantiels et qu'ils durent, que ce ne soit pas seulement quelque chose qui va recommencer parce qu'on aura baissé notre garde, et arriver à avoir un modèle qui puisse fonctionner et qu'on arrive à ne pas seulement blâmer que les femmes qui font la mutilation, c'est toute une société qui y participe. Comment on arrive à changer les mentalités?
Alors, c'est bien une question de mentalité. En effet, il y a plusieurs pays en Afrique où les mutilations génitales féminines sont aujourd'hui interdites, mais ces pays ont toujours des problèmes pour appliquer la loi. Le changement des mentalités, vous qui connaissez bien l'Afrique, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que vraiment les mentalités évoluent plus vite? Vous l'avez dit vous-même, vous trouvez que ça ne va pas assez vite. C'est une question de mentalité.
Ah oui, mais les mentalités, la chose la plus difficile à changer, c'est les mentalités. Et comment on change les mentalités des gens si on ne les éduque pas? C'est pour ça que moi, j'investis énormément dans l'éducation, parce que les messages de santé, on ne peut les comprendre et voir l'impact que ça peut avoir sur la vie de votre futur. Si on n'est pas éduqué, on ne peut pas comprendre. Au jour d'aujourd'hui, la démocratie en Afrique, dans la plupart des pays, quand on fait une campagne présidentielle, ce n'est pas sur des idées. On va donner des sacs de riz pour qu'on vote pour vous. C'est le régionalisme. Il faut qu'il y ait un peu plus d'éducation pour qu'on arrive à avoir une démocratie et des programmes et qu'on puisse avoir une discussion avec les sociétés civiles et qu'ils puissent participer. Et on a des systèmes en place qui font perdurer le patriarcat et qui permettent aux hommes de rester au pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir est pourri partout, est corrompu partout, en Amérique, en Europe, en Afrique. Donc, à un moment donné, le peuple qui est éduqué peut demander des comptes à un gouvernement. Vous voulez que les gens aient demandé des comptes sur quoi? Ils vont dire on n'a pas d'essence dans la voiture. Et il faut qu'on arrive à avoir en Afrique une discussion sur nos sociétés qui soit profonde et constructive. Et que les ressources africaines soient utilisées pour développer nos pays. On ne peut pas demander des efforts en Afrique quand il n'y a pas les moyens d'implémenter une loi. Les lois qu'on vote, les forces de l'ordre en Afrique ne sont pas suffisamment payées, ils ne sont pas armées pour faire le boulot qu'il faut. Même s'ils sont témoins d'injustice, ils sont souvent dans l'incapacité de vraiment faire quelque chose la plupart du temps. Donc quelque part, il y a un problème de budget, il y a un problème de mentalité, il y a un problème de refondre nos sociétés autrement pour que les choses avancent. On ne peut le faire que si on n'a pas toujours cette chape, cette épée de Damoclès de nos ressources qui sont devenues une malédiction pour nous. Nos ressources ne servent pas à développer nos pays. Ça sert à développer et à enrichir les pays riches. Ça, c'est une réalité.
Un mot sur les mariages forcés des petites filles. Pas beaucoup d'amélioration de ce côté-là non plus.
Et ce n'est pas seulement un pays africain non plus. J'ai vu un film hier qui s'appelait Tana. Et c'est terrible ce qui se passe dans le monde. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Que les filles soient des marchandises qu'on se partage, et ça c'est pas normal. Donc à partir du moment où le statut de la femme sera toujours une zone grise, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et que on est toujours en train de parler au jour d'aujourd'hui des droits de femmes. Pourquoi est-ce que les droits des femmes doivent être séparés des droits de l'homme? Ne sommes-nous pas des êtres humains? Si on parle de droits de l'homme, quand une femme, une jeune fille est déniée de son droit de choix de vie, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas punir, ne pas voir ça comme un crime? Pourquoi est-ce que les viols ne sont pas plus punis en Afrique? C'est ça le truc. On est dans une société où nous, les femmes, entre nous, on n'est pas unis. Il faut qu'on arrive à nous débriefer notre propre tête, de penser qu'on n'est pas capable de faire ci parce qu'on est femme, de sortir de ce rôle uniquement de femme et de mère. On peut être tout. On peut être femme, on peut être mère, on peut être entrepreneur, on peut faire plein de choses. Mais
C'était la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, lauréate du prix ambassadeur de la conscience 2016 d'Amnesty International. Alors Nicole Chitam, revenons sur le sujet de l'accès à la santé sexuelle aux jeunes. La responsabilité sexuelle, Nicole, un jeune couple, un très jeune couple, là, des jeunes de 18 ans, là, ils sont responsables tous les deux, n'est-ce pas? C'est pas seulement la jeune fille, si elle tombe enceinte ou autre, n'est-ce pas? Cette question de responsabilité mutuelle, est-ce que vous faites des formations sur ces questions-là?
Oui, absolument, c'est très important. Et on voit que vraiment, il faut faire des formations avec les garçons et les filles. Mm-hmm. C'est pas exclusivement quelque chose des filles. Mm-hmm. Et vraiment, on voit qu'en effet, les garçons veulent être engagés. Ils veulent pas être exclus de mm-hmm. ces capacitations, de ces activités. Et que de plus en plus, on voit que oui, ils et elles sont capables de prendre responsabilité pour leur relation. Mais c'est pas facile parce que souvent, oui, la norme, disons, mm-hmm. c'est que c'est toujours la fille.
Et c'est toujours un peu tabou aussi, finalement. C'est-à-dire, toi, oui. ta part de responsabilité, mm-hmm. C'est ton problème, alors qu'en fait, on a du mal à comprendre que c'est un problème de couple. Hein.
C'est ça.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour les parents, pour que les parents... puissent oser, ne serait-ce que ça, parce que on a tous ce problème-là, hein, il faut le dire, hein, c'est pas seulement certains parents, c'est pas facile de parler à un jeune adolescent de 14-15 ans des affaires sexuelles, non?
Ah, absolument, c'est vraiment, je pense, universel, en effet.
Ouais.
Donc oui, les parents, c'est très important de travailler avec les parents, et on fait des formations, par exemple, sur la communication parent-enfant. Pour capaciter les parents, ça se fait à travers des visites à domicile, au Burkina par exemple, pour leur donner des capacités de communication, pour savoir comment traiter ces sujets avec leurs enfants. D'abord, ils ont besoin des informations concrètes eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas même, par exemple, les détails de comment on tombe enceinte. Souvent, les mm-hmm. adultes eux-mêmes ne connaissent pas bien mm-hmm. les informations. Aussi, il y a des techniques de communication qui peuvent bloquer l'engagement de l'enfant ou encourager la communication avec l'enfant. Donc ça, c'est très important. Par exemple, si un enfant vient et demande, par exemple, une jeune fille à propos de comment est-ce qu'on tombe enceinte, souvent, ça peut se faire que la réaction du parent est d'être fâché ou de dire
oui, de s'imaginer oui, tout de suite qu'est-ce que tu vas
qu'elle
faire
qu'elle est tombée enceinte déjà ouais, ou quelque chose comme ça donc ça c'est immédiatement ça bloque et donc on essaie on fait des formations pour encourager d'autres réponses où on juge pas immédiatement, on maintient la calme un peu pour pour demander à l'enfant plus de questions et pour ainsi éduquer et donner des informations.
Et ça, on précise bien que vous ne le faites pas seulement en Afrique, hein, c'est dans le monde entier, vous le faites aux États-Unis également.
C'est vrai, oui.
Et comment amener les parents à eux-mêmes volontairement aller frapper à la porte de l'adolescent et à lui parler de cela?
Oui, donc ça dépend, c'est pas facile. Disons, au niveau communautaire...
Il faut qu'il soit prêt déjà.
Oui. Ça dépend du programme. Mais il faut un intérêt déjà chez les parents. Donc nous, on peut introduire ces activités ayant fait déjà un travail pour augmenter l'intérêt chez les parents.
Le principal défi en Afrique en matière d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes, quel est-il? Le principal défi, le principal problème, selon vous.
Oui.
Est-ce que c'est peut-être aussi la question financière? Parce qu'il y a aussi le fait que l'accès aux contraceptifs, c'est payant, c'est pas gratuit partout, ça.
Oui. Ouais. Le prix est une barrière, les visites, tout ça c'est une barrière, mais dans notre expérience quand même, on voit que vraiment ça c'est pas la plus grande barrière, c'est vraiment plutôt les attitudes des prestataires et c'est le tabou.
Le tabou.
Oui.
Les jeunes qui n'osent pas et qui ont toujours peur de la réaction, qui peut être une réaction violente, de la part de l'entourage.
Ça peut, quelquefois. Et les prestataires qui les jugent, et ça aussi.
Les prestataires.
Oui, les prestataires même, oui.
Oui, les filles surtout. Qu'est-ce que tu as fait?
Bon,
qui les jugent dans quel sens?
Oui,
pourquoi tu es tombée enceinte ou des choses comme ça?
Oui, c'est ça.
Ça, c'est
vous
universel.
Êtes trop jeune pour être ici.
Ça, c'est universel aussi.
Oui, c'est ouais. Ça.
Mmh. Ouais. Merci beaucoup, Nicole Chitam, directrice internationale de la division santé et droits des jeunes à Advocates for Youth à Washington. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci également à Joselle Morissin et à Nashwan Kale à la production. À très bientôt. Au revoir.